Bonsoir à toutes et à tous, c'est dimanche, c'est l'heure du Grand Fauve. À l'affiche ce soir, un mythe du XXe siècle. Let's go Marco.
Il faut que tu retrouves ce regard-là. L'œil du tigre, mec. Ouais, l'œil du tigre.
Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur.
Pelé, de son vrai nom Edson Arantes do Nascimento, est le plus grand joueur de football qui ait jamais existé. Pelé, c'est l'homme caoutchouc à l'invraisemblable souplesse, aux feintes sidérantes et qui va toujours plus vite à mesure qu'il approche du but adverse. Mais quel est le secret du footballeur le plus cher du monde? Pelé, qui êtes-vous?
Personnage énigmatique, le roi Pelé est sans doute bien plus complexe que son image lisse ne le laisse présager. Considéré par certains comme un béni oui-oui face à la dictature brésilienne des années 60 et 70, ou alors comme un porte-étendard servile du sport business depuis 60 ans, il semble toutefois qu'à l'âge de 80 ans, qu'il a fêté en octobre dernier, Pelé laisse surgir des doutes et des failles, ce qui transpire d'ailleurs dans cet excellent documentaire produit par Netflix et consacré au destin hors norme de celui qui fut le roi du football. Alors à notre table cette semaine pour tenter de percer le mystère Pelé, deux habitués de notre rendez-vous dominical. D'abord un journaliste devenu écrivain, Benoît Emmermann. Il a rencontré plusieurs fois le roi Pelé et à ses côtés un historien du football. Il enseigne à Paris 1. C'est toujours un plaisir. Fabien Archambault, bonsoir.
Bonsoir.
Et bienvenue. On retrouvera Benoît dans quelques instants. Et puis juste avant le journal de 19h, la victoire en chantant de Pierre-Étienne Minonzio. Ce soir, un hommage au chanteur Christophe. Vous êtes bien sur France Inter dans l'émission qui vous raconte la grande histoire du sport. À l'affiche ce soir, le roi Pelé ou la fierté du peuple brésilien.
L'œil du tigre. Philippe Collin sur France Inter.
Alors ce soir, en préambule à cette émission consacrée à Pelé, notre ami écrivain Olivier Guèze, auteur de l'Éloge de l'Esquive, nous offre un bref condensé de l'histoire du football brésilien, le tout en 1 minute 45, une vraie prouesse, et on commence aux origines.
À la fin du 19e siècle, lorsque le foot est importé au Brésil par les Britanniques, hein, comme partout en Amérique du Sud, c'est d'abord un sport de blanc réservé à une élite plutôt aristocratique, c'est un sport de snob. Et d'ailleurs, les premiers clubs de foot à Rio sont des clubs de régate. Et c'est toujours le cas aujourd'hui, c'est-à-dire le Flamengo, le Botafogo, le Fluminense sont des clubs de régate, donc des clubs plutôt sport, où voilà où se retrouve la bonne société carioca. Très rapidement, le foot se développe, il y a les immigrés qui viennent d'Europe, qui jouent au foot, et puis évidemment, il y a les Noirs et les Métis. Les Noirs et les Métis sont exclus de ces grands clubs au départ. Les premiers Métis qui vont oser s'aventurer dans ce jeu-là doivent se travestir, certains vont mettre de la poudre de riz sur le visage, c'était le cas d'un joueur qui s'appelait Carlos Alberto, qui joue au Fluminense, et encore aujourd'hui, c'est le surnom de cette équipe. Poudre de riz, les supporters balancent du talc sur la pelouse avant les matchs importants. Donc ça, c'est resté. Et puis, il y a un autre joueur qui s'appelait Arthur Friedenreich, qui, comme son nom l'indique, sa mère est noire, mais son père est allemand. Lui a la peau très claire, des yeux verts, par contre, il a les cheveux crépus, et lui se lissait les cheveux avec de la brillantine. Friedenreich est un footballeur exceptionnel, c'est la première légende du foot brésilien. C'est lui qui a marqué le plus grand nombre de buts dans toute l'histoire du foot, plus de 1300. Et Friedenreich déconcerte ses adversaires, les observateurs, parce qu'il y a une façon très particulière d'éliminer donc les arrières. Et c'est comme ça, en fait, que va naître ce style brésilien. Et on retrouve dans les mouvements de Friedenreich, ces jeux de taille, ce jeu de jambes, ces mouvements de hanches, en fait, exactement les mêmes mouvements que dans la samba ou que dans la capoeira. Donc, c'est-à-dire qu'on retrouve toutes les racines africaines, des esclaves africains au Brésil, dans ce jeu-là, en fait.
Bien. Après ce préambule et après les années Friedenreich, le Brésil a donné naissance à un roi noir de peau. Voici l'histoire du dimanche soir. Le documentaire débute sur un vieillard filmé en contre-jour qui se déplace lentement avec un déambulateur. L'homme porte un pyjama en coton bleu ciel, une couleur qui sied parfaitement à sa peau d'ébène. L'homme est fatigué, amoindri. Il trimballe avec difficulté ses 80 ans, mais son regard a conservé son autorité naturelle teintée d'espièglerie. En 2021, le roi Pelé est un peu Kakoshim, mais il n'est pas déchu. Pelé est éternel, il le sait avant même de mourir. Pelé s'assied ensuite sur une chaise en bois, et puis, regard face caméra, il commence à nous raconter sa fabuleuse histoire.
On était pauvres, mais à chaque fois que c'était possible, mon père travaillait.
Mon père était footballeur. On le surnommait Don Digne. Et moi, j'étais le fils de Don Digne. J'ai toujours voulu faire comme mon père. Et pour moi, c'était le meilleur footballeur du monde.
À une période de sa carrière, mon père s'est blessé et son club a cessé de le payer. Donc Pelé a décidé d'aider notre famille en allant travailler.
Je cirais et je lustrais des chaussures pour aider ma famille.
Quand mon père s'est rendu compte qu'il était doué pour le foot, il l'a vraiment poussé dans cette voie. Et ils sont partis à Santos.
C'est un extrait de cet excellent documentaire produit par Netflix que je vous encourage à aller regarder parce que c'est un documentaire vraiment très réussi sur le roi Pelé. Benoît Hemmermann, bonsoir.
Bonsoir.
Alors vous êtes écrivain, anciennement journaliste, notamment pour l'équipe. Le football vous accompagne depuis que vous êtes gamin, Benoît, et vous avez rencontré plusieurs fois Pelé. Qu'est-ce qu'il représente pour vous, ce roi Pelé, Benoît Hemmermann ?
Franchement, pour moi, c'est le champion du plaisir et de la joie de vivre. C'est quelqu'un qui transporte toujours ce sourire sur lui et qui est toujours heureux de jouer. Si on le compare aux grands autres joueurs, on dirait de Maradona, par exemple, qui représente l'instinct, la fourberie. Cruyff, on dirait que c'est la vitesse, la stratégie. Zidane, l'élégance, mais aussi une certaine froideur. Pelé, lui, c'est le côté où je dirais la face positive du football, le football qui est doué encore d'une certaine innocence. Il est toujours heureux de jouer. C'est en tout cas moi l'image que j'en garde. La première fois que je l'ai vu, c'était il y a déjà plus de 40 ans. C'était quand il a arrêté de jouer et qu'il a joué son dernier match avec le Cosmos. C'était une grande fête. Il y avait beaucoup de plaisir. Il y avait toujours chez lui ses yeux brillants et ce sourire. C'est en tout cas ce que je veux garder. Il y a certains qui diront que c'est une certaine naïveté, une certaine candeur, sans doute, mais c'est ça encore que je veux garder pour toujours.
Fabien Archambault, le vrai nom de Pelé, c'est Edson Arantes do Nascimento. Il est né en 1940, donc dans une famille très modeste du Brésil, dans un Brésil encore très jeune et très agraire encore à l'époque. Son père jouait au football, on l'a entendu raconter dans le son d'archives à l'instant. Pourquoi l'a-t-on surnommé Pelé ?
Alors on l'a appelé Pelé parce que son père l'emmenait quand il allait jouer au football. Il l'emmenait, il le mettait au bord du terrain. Et donc son père faisait des essais parce que c'était un bon joueur de foot. Et il fait notamment un essai dans un des grands clubs de Rio, le Vasco da Gama, qui a été le premier club à sélectionner des Noirs dans les années 20, à gagner le championnat de l'État de Sao Paulo en 1923. Et donc voilà, pendant ces matchs du Vasco da Gama, le tout petit Pelé, il entend le nom des joueurs qui s'appellent, qui s'interpellent entre eux. Et donc le gardien de but du Vasco da Gama s'appelle Billet.
Billet, hein, voilà.
Et le tout jeune Edson n'arrive pas à dire Billet, il dit Billet. Et voilà son surnom, son père lui trouve ce surnom Pelé.
Et qu'il l'a gardé jusqu'à ce soir finalement, ce gardien de but Billet du Vasco da Gama. Benoît Hemmermann, en 1950, Pelé donc à 10 ans, c'est l'année où le Brésil accueille cette Coupe du Monde, qu'elle va perdre en finale contre l'Uruguay. Il faut expliquer, Benoît, à quel point ce fut un drame national au Brésil.
Absolument. D'abord, cette Coupe du Monde de 1950, c'est seulement la quatrième Coupe du Monde. Contrairement aux Jeux Olympiques qui ont débuté au 19e siècle, la Coupe du Monde met beaucoup de temps à se mettre en route, en particulier à cause des Anglais qui ne veulent pas y participer. Et donc cette Coupe du Monde d'après-guerre, personne ne veut grosso modo l'organiser, sauf le Brésil, qui est loin des ruines de l'Europe juste après la guerre. Et donc c'est des grandes manœuvres, on va dire. Le Brésil a décidé de mettre les petits plats dans les grands et de construire un certain nombre de stades, dont le fameux Maracanã, qui est un stade qui, à l'époque, pouvait contenir 173 000 spectateurs. Donc c'est des gros travaux. D'ailleurs, le stade sera à peine fini au début de cette Coupe du Monde. Le Brésil n'est pas encore une grande nation de football. Hein. Lors de la première Coupe du Monde, ils ont gagné un match, ils en ont perdu un autre. En 34, ils sont éliminés tout de suite. En 38, ils vont en huitième de finale. Mais on sent, au fil des années, que le football brésilien devient quelque chose d'important. Donc cette Coupe du Monde est un enjeu national, d'autant que le pays, économiquement, industriellement parlant, se développe beaucoup. Donc cette défaite qui a lieu à la fin d'un championnat, c'est pas une coupe à élimination directe, c'est un championnat où les deux premiers, c'est l'Uruguay et le Brésil. Il y a un match décisif entre les deux. Ce match est perdu par le Brésil et on fera porter en particulier la responsabilité de cette défaite sur Barbosa, le gardien, qui comme par hasard est un joueur métis. L'équipe brésilienne de l'époque est encore à majorité blanche. Et Barbosa, qui est le gardien de but et qui a encaissé deux buts, va être montré du doigt. Et Pelé, effectivement, a 10 ans à cette époque, et son père est joueur pro, comme on l'a dit, et il suit la Coupe du Monde avec son fils à la radio. Et Pelé est marqué par ça, et marqué justement en plus par ce personnage de Barbosa, qui est métisse comme lui, et qui est montré du doigt par le Brésil tout entier.
Et c'est vrai que cette donc défaite va être un drame national pour le pays. À l'époque, Benoît, il y a un dramaturge brésilien qui s'appelle Nelson Rodriguez qui a écrit qu'avec cette défaite démontrait à propos du Brésil le complexe du bâtard chez les Brésiliens. Qu'est-ce que ça voulait dire, Benoît ?
Mais justement, le football, quand il s'est développé en Amérique du Sud, en Argentine ou en Uruguay, il a été pris en charge par effectivement la population blanche, par les joueurs blancs qui ont développé un football, je dirais, très européen. Le Brésil, avec sa science du melting pot qu'on connaît très bien, avec le mélange des races, a essayé de développer un football un peu différent, mais qui effectivement n'a pas obtenu des résultats immédiats par rapport à l'Uruguay, par exemple. Donc Olivier Guez, qu'on a cité dans l'éloge de l'esquisse, parle de tout ça. Et dans l'extrait que vous avez, en tout cas dans l'interview que vous avez fait avec Olivier, il n'a pas parlé du malandro. Alors qu'il en parle très très bien dans son livre. Le malandro, c'est justement quelqu'un qui est capable d'une certaine ruse, qui est un garçon de la rue, qui est obligé de se débrouiller avec ses propres moyens, donc de contourner les obstacles, donc de dribbler comme il voulait. Alors quand ça marche, effectivement, c'est une joie, c'est une victoire. Mais quand ça rate, c'est justement ce complexe du bâtard qui revient à la surface.
Le malandro, c'est le dribbleur social, dit Olivier Guez. Fabien Archambault, Pelé donc a été profondément marqué par cette défaite en 1950 du Brésil en finale de Coupe du Monde. 8 ans plus tard, il n'a que 17 ans et le voilà sélectionné. Il est tellement fortiche au football. Le voilà sélectionné pour la Coupe du Monde en Suède 1958. Il va participer à cette Coupe du Monde en tant que joueur brésilien. Et à quoi va-t-on assister alors sur le vieux continent qui a inventé le football durant cet été 58 ?
Alors on assiste à plusieurs choses. Bon, déjà c'est la première victoire du Brésil, mais le Brésil c'est la seule équipe qui présente des joueurs noirs. C'est la victoire d'un pays sud-américain sur le vieux continent, ce qui est très rare, hein, qu'une équipe sud-américaine ou européenne gagne sur le continent ennemi ou adversaire. Et c'est l'éclosion du plus jeune vainqueur de la Coupe du Monde, du plus jeune marqueur en finale.
Deux buts, hein.
Voilà.
Pelé marque deux buts contre la Suède en finale et il devient effectivement une star mondiale très vite.
Alors voilà. Alors ce qui se passe en fait, il devient une star mondiale, mais il y a des raisons qui expliquent que ce jeune attaquant noir ait autant de succès. En fait, ça rejoue en partie ce qui s'était passé avec l'Uruguay dans les années 20 en Europe, parce que l'Uruguay avait gagné deux fois les Jeux Olympiques, le tournoi olympique de football, en 1924 et en 1928, et ça avait fasciné le public européen, et ça s'inscrivait dans un mouvement culturel où il y avait, bah, par exemple, la rumba, la samba, le tango. C'est-à-dire qu'on était à la recherche de nouveaux rythmes, de nouveaux styles musicaux. Et celui qui incarnait ça, bah, c'était l'attaquant de l'Uruguay, qui était Jorge Andrade, la Maravilla Negra, la Merveille Noire. Il se passe un peu la même chose avec Pelé en 58. En 59, qui gagne au Festival de Cannes ? C'est Orfeu Negro, dont l'acteur principal est l'attaquant de Fluminense, Breno Melo, je crois, qui est noir. Et c'est un style musical qu'on appellera bientôt la bossa nova, qui fait que voilà, le roi Pelé, et c'est Paris Match qui le premier le baptise de cette manière-là, ben c'est pas pour rien, c'est que c'est tout cet exotisme sud-américain qui s'incarne dans le nouveau roi Pelé.
Et qui fascine l'Europe. Fabien Archambault, la Coupe du Monde suivante, c'est 62, c'est au Chili. Le Brésil arrive en grand favori. Pelé est devenu une star mondiale, parce que la télévision s'étend au niveau de la planète, donc on voit le joueur Pelé jouer dans les foyers, donc il est devenu vraiment une star mondiale. Mais qu'est-ce qui se passe pour Pelé lors de cette Coupe du Monde 62 ?
Il se blesse très tôt dans la compétition. Alors c'est pas tellement le jeu dur, C'est qu'en fait, il joue trop. Donc, il joue à Santos, hein, qui est le port de São Paulo. Et il y a l'idée que Pelé ne quittera jamais le Brésil. C'est-à-dire que les gouvernements, à la fin des années 50...
Trésor national,
patrimoine sportif. Mm-hmm. Mais le problème, c'est que pour résister aux sirènes des grands clubs européens comme le Real Madrid ou l'Inter de Milan, qui sont prêts à faire des ponts d'or pour le transférer en Europe, il faut quand même lui payer un salaire. Et ce salaire, Santos le paye par des tournées mondiales, qui fait que chaque année, Pelé joue quasiment à la fois les compétitions officielles, qu'elles soient sud-américaines ou brésiliennes.
Et les galas.
Et voilà, et des matchs amicaux, et qui ont lieu dans le monde entier. En Amérique du Sud, en Europe, aux États-Unis, à partir du milieu des années 60, etc. Donc en gros, en 1962, il joue tellement, on a estimé qu'il jouait 20 matchs en plus que
la moyenne
normale, bah en gros, il est fatigué. Heureusement pour le Brésil, ils ont un autre joueur d'exception, Garrincha, qui est la vraie vedette de cette Coupe du Monde 62. C'est lui qui porte le Brésil à une deuxième victoire.
Et oui, ils vont gagner au Chili en 62 une seconde victoire. Donc sans Pelé qui se blesse dès le deuxième match, donc il doit arrêter sa compétition. Mais cela dit, quand il rentre au Brésil, il est encore une idole. C'est-à-dire qu'il n'a pas joué, mais malgré tout, il bénéficie de cette victoire.
Oui, bah alors il a gagné le championnat brésilien, ils ont gagné la Copa Libertadores, donc l'équivalent de la Champions League actuelle pour l'Amérique du Sud, et ils ont gagné la Coupe Intercontinentale contre le Benfica de Lisbonne, donc c'est le porte-étendard d'un Brésil qui devient un grand pays, notamment par le football.
Benoît Immermann, donc après cette Coupe du Monde 62, le Brésil est en liesse, évidemment. C'est une période dorée pour la démocratie brésilienne. Et puis arrive l'année 1964, donc 64. Que se passe-t-il, Benoît, au Brésil en 64?
Il y a le fameux coup d'État du 31 mars qui coupe court à un gouvernement qui était progressiste, qui était le gouvernement de Goulart. On sentait ce pays s'émanciper, mais n'oublions pas, on est au milieu des années 60, donc au milieu des années 60, c'est Cuba, c'est l'histoire des missiles, etc. Et les États-Unis voient d'un assez mauvais œil effectivement se développer cette démocratie brésilienne qui représente un pays immense avec des grandes ressources, une population très nombreuse. Donc ça pose problème. On le saura évidemment a posteriori, mais ce coup d'État est téléguidé par les États-Unis, c'est une évidence. Et c'est un homme fort qui vient au pouvoir, le maréchal Branco, qui dirige cette fameuse 5e République. On n'imagine pas la terreur qui régnait dans ce pays à cette époque-là. On a le souvenir plus récent de la dictature argentine, mais ce qui s'est passé au Brésil dans les années 60 était tout à fait du même acabit. C'est vraiment une période terrible où il y a beaucoup d'emprisonnement, beaucoup de torture, etc. Et Pelé est pris dans cette tourmente.
Alors Pelé est pris dans cette tourmente du coup d'État 64 au Brésil, Fabien Archambault. Mais en vrai, ça ne change pas grand-chose pour lui, dans le sens où on continue à jouer au football. Hein. Le régime encourage évidemment la pratique du football pour le plaisir du peuple, dans un point de vue populiste, on va dire. Et arrive donc cette Coupe du Monde 66, en 1966, en Angleterre. Mais cette fois, les équipes adverses ont un plan anti-Pelé. Il s'agit de contrôler, de neutraliser Pelé. Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire de jouer très dur contre lui, y compris en faisant des gestes illégaux, répréhensibles. Alors, ça concerne Pelé, en fait, ça concerne toutes les équipes sud-américaines. C'est-à-dire que la Coupe du Monde 66, c'est la première en fait que les pays européens prennent au sérieux, enfin que l'Angleterre prenne au sérieux, c'est-à-dire qu'elle va compenser symboliquement son déclin en affirmant, elle qui est l'inventeur du jeu, qu'elle va montrer qu'elle est la meilleure. Donc c'est contre l'Argentine, hein, où le quart de finale se passe très mal. Et contre Pelé, alors je crois que c'est la Bulgarie, oui. Et ensuite le Portugal. Donc là, il y a l'aspect aussi du complexe du Portugal, hein, qui joue face à son ancienne colonie, qui est devenue une beaucoup plus grande puissance que l'ancienne
que
métropole.
Que le Portugal, bien sûr, oui, bien sûr.
Et donc, alors c'est après, en fait, c'est cette blessure de Pelé, donc au troisième match contre le Portugal.
3-0. 3 buts de Zébio, je crois.
Voilà, c'est ça que la FIFA décidera d'introduire le système des cartons jaunes et des cartons rouges.
Pour sanctionner les gestes répréhensibles.
Et qui seront introduits à la Coupe du Monde suivante en 1970, parce que les deux joueurs qui ont blessé Pelé, en 66, sont sortis totalement blancs comme neige des attentats qu'ils avaient commis contre lui.
Alors Fabien, donc en 66, le Brésil joue cette Coupe du Monde en Angleterre avec un régime donc dictatorial au pays. En 68, le régime va se durcir. Notamment, on va faire passer des lois d'exception pour autoriser la torture, carrément la torture, contre les opposants au régime. Donc Pelé est de retour au pays, évidemment, en trésor national, il ne partira pas du Brésil. Quel rapport il entretient avec ce pouvoir de dictateur aux manettes du régime brésilien?
Alors c'est difficile. Pelé s'est toujours défini comme apolitique et qui n'appréciait pas ceux qui s'engageaient de manière trop ouverte. Donc par exemple, il disait qu'il préférait Kennedy et Martin Luther King à Angela Davis et à Mohamed Ali. En 1970, un entretien avec une journaliste mexicaine qui lui reprochait d'être non seulement le porte-drapeau d'un pays, mais aussi du gouvernement de ce pays. Il avait dit « Vous me parlez de dictature, mais je ne peux pas vous répondre puisque ça n'existe pas ». Alors, évidemment, il était surveillé. Enfin, c'est-à-dire que dès 1965, on le sait, les services secrets le contrôlent parce que toutes ces allées et venues qu'il effectue dans le monde, c'est à la fois un moyen de promotion du régime, mais aussi, on ne sait jamais, il peut être utilisé par des militants de gauche qui sont opposés à la dictature et qui pourraient le faire mal parler du régime, qui pourraient, et finalement on ne sait pas trop si il pourrait pas déraper à un moment donné. Donc en gros, on a plus l'impression que ça le dépasse un peu et qu'il ne dit jamais, c'est pas Socrates. Donc le
autre grand joueur de football des années 70-80
et au début des années 80 qui lui s'engage ouvertement et explicitement contre la dictature, et certains dans la gauche brésilienne considèrent que Pelé, vu la stature qu'il avait, aurait pu s'opposer de manière plus explicite au régime. Donc en gros, aujourd'hui, la gauche brésilienne lui reproche encore de ne pas s'être engagée dans ces années-là.
Benoît Immermann, c'est vrai que c'était une position très compliquée pour Pelé, parce que évidemment le régime veut que Pelé continue à jouer au football. Il est la joie du peuple, pour reprendre un sobriquet qu'en général on accorde à Garrincha, mais Pelé est aussi une joie du peuple, et donc c'est une situation très complexe pour Pelé.
Oui, c'est très complexe. Pour revenir un peu sur ce que dit Fabien, Pelé, on lui demande de s'engager, il hésite beaucoup, mais on peut dire que Pelé a pesé tout de même politiquement de manière évidente, en particulier dans le tiers-monde. Il a été une figure très importante. On parlait des tournées du Santos, il faut parler des tournées du Santos, par exemple, en Afrique, où il a joué un grand rôle. On a parlé de ce fameux match au Nigeria, où il y a eu un cessez-le-feu pendant la guerre du Biafra, à cause de ce fameux match qu'il a joué. On peut dire aussi qu'il a été une figure représentative d'un certain tiers-monde. Et effectivement, dans son pays, c'était beaucoup plus compliqué, mais c'était vraiment la terreur, et je pense qu'il a eu du mal de s'exprimer, et c'était pas dans sa nature. C'est une évidence.
On va faire une pause musicale avec Elsa Soares, compagne de Garrincha, le double obscur de Pelé. Le titre joué dans le jukebox ce soir sur Inter, Mais Que Nada.
Mais que nada, sai da minha frente que eu quero passar. Pois o samba está animado, o que eu quero é sambar. Este samba que é misto de maracatu, é samba de preto velho, samba de preto tu. Mais que nada, um samba como esse tá legal. Chegue no final. Samba.
L'œil du tigre. Philippe Collin.
On m'appelle l'épaule et l'Apollon, le Napoléon du football, le champion du ballon. Coup franc. Quand je descendais la balle au pied, que j'avalais tous les arrières, tous les demi, tous les inter. Corner. Que je me faufilais dans la surface de réparation pour ajuster de près mon tir meurtrier. Mi-temps.
Sur France Inter.
À l'été 1970, le roi Pelé, Napoléon du ballon, a 29 ans. Icône planétaire, deux fois vainqueur d'une Coupe du Monde, le prodige se pose une question cruciale. Doit-il arrêter le football? Depuis 6 ans, son pays est sous la coupe d'une dictature militaire féroce. Le Brésil est cadenassé par des tortionnaires et le régime cherche à exploiter sa pépite noire, opium du peuple malgré lui. Pelé navigue comme il peut au milieu de ses incertitudes et des eaux troubles. Il est fatigué, Pelé doute, doit-il ou non participer à la prochaine échéance.
Demain à Mexico, début de la Coupe du Monde de football. Tout de suite sur place, notre envoyé spécial Thierry Roland.
Demain s'ouvre à Mexico la 9e Coupe du Monde de football. Coupe du Monde de l'altitude, bien sûr, mais aussi Coupe du Monde de l'incertitude. Pour le premier match de demain, Mexique-URSS, l'ambiance s'annonce exceptionnelle. Dans ce magnifique stade aztèque, le plus beau stade de football du monde, il y aura 110 000 spectateurs, tous unis, prêts à communier pour le Mexique, favori de tout un peuple. La 9e Coupe du Monde devrait être dans ce pays de football la vraie fête du football. Souhaitons que la qualité des matchs soit à la hauteur du cadre et que nous n'ayons pas au Mexique les incidents qui ternirent la Coupe du Monde en 1966 en Angleterre, comme l'anti-jeu de certaines équipes et les brutalités dont furent victimes de grands joueurs, Pelé par exemple, qui disputera ici, à Mexico, avec le Brésil, sa 4e Coupe du Monde.
Alors, la Coupe du Monde au Mexique, nous sommes maintenant en 1970. Benoît Emmermann, je rappelle que vous êtes écrivain. Dans le documentaire produit par Netflix sur Pelé, le roi Pelé dit lui-même qu'il ne voulait pas participer à cette Coupe du Monde au Mexique. Qu'est-ce qu'il a fait changer d'avis, Benoît ?
Effectivement, il était vraiment fatigué, il était là de jouer au football. Il jouait beaucoup, il jouait sans doute trop, 110 matchs par an. Il venait de marquer 1000 buts en 1969, et il estimait avoir atteint un sommet, ces fameux 1000 buts, ce millième but, il l'avait dédié aux enfants pauvres du Brésil. Il semblait avoir bouclé la boucle. Et effectivement, en mars 70, quand le Brésil rencontre le Chili dans un match éliminatoire avant la Coupe du Monde, il n'est même pas sur la feuille de match. Enfin, il s'entendait pas avec le sélectionneur. Salena, qui était un ancien journaliste, reprochait à Pelé de n'être pas en forme, d'avoir des problèmes de vision. Et donc Pelé était un peu dégoûté. Et s'il est revenu, c'est vraiment à la dernière minute. Les deux matchs de préparation sont mal joués, sont mauvais, contre le Paraguay et contre la Bulgarie. Et c'est, s'il est revenu aussi, c'est grâce à Zagallo, avec qui il a gagné la Coupe du Monde en 58, qui devient le nouveau sélectionneur du Brésil. Et je crois que c'est évidemment les militaires qui ont demandé à changer de sélectionneur pour faire plaisir à Pelé et pour l'inciter à revenir jouer cette Coupe du Monde.
Alors justement, Fabien Archambault, vous êtes historien du football, je le rappelle. En 70, la dictature au Brésil est féroce. Et pour le peuple brésilien, c'est très important que cette Coupe du Monde ait lieu et que le Brésil puisse offrir un soulagement finalement à ce peuple-là.
Oui, c'est la soupape, c'est-à-dire que c'est une sorte de parenthèse enchantée dans des temps qui sont difficiles. Et ça signale que le football est une culture de masse qui est si puissante qu'elle dépasse largement les antagonismes politiques. Et qu'il est difficilement récupérable par un camp ou par un autre. Le football, c'est la joie du peuple et c'est d'abord celle du peuple, peu importe ceux qui sont à la tête du pays.
Benoît Emmermann, cette Coupe du Monde 70 va être extraordinaire d'un point de vue footballistique. Vous l'avez dit, Benoît, Zagallo, donc, qui est devenu le nouveau coach brésilien, fait revenir Pelé dans la sélection. Qu'est-ce qui va se passer sur le terrain de cette Coupe du Monde au Mexique pour le roi Pelé, Benoît Emmermann ?
pour le roi Pelé et pour l'équipe du Brésil tout entière. Encore une fois, insistons sur Zagallo. Zagallo était plutôt un entraîneur et un sélectionneur très dur, qui imposait des entraînements vraiment physiques, que n'aimaient pas tellement les joueurs. Il leur a demandé d'aller chez le coiffeur avant de participer à cette Coupe du Monde et d'avoir des tenues, si ce n'est militaires évidemment, mais plutôt rigoristes, etc. Que font ces joueurs? Ils offrent un football totalement chatoyant, totalement libre, qui va aux antipodes de ce qu'on peut imaginer dans un régime contraint. Ils offrent un football de liberté, et Pelé en tête, qui jouait si mal les mois précédents, offre quelque chose d'absolument extraordinaire, si extraordinaire que non seulement on se souvient de ses buts, ces fameux 4 buts qu'il a marqués pendant la Coupe du Monde, et en particulier le 1-0 contre l'Italie en finale, mais qu'en plus on se souviendra même des buts qu'il n'a pas marqués. C'est ça qui est extraordinaire pour les aficionados, mais aussi ceux qui connaissent le football. On connaît les meilleurs buts de Pelé, mais on connaît aussi le fameux grand pont qu'il a fait à Mazurkiewicz, l'Uruguayen, ou le fameux tir qu'il a fait depuis le rond central, le fameux lob qui a failli lober Victor. Mais encore une fois, ses buts n'ont pas été marqués, et pourtant on s'en souvient. Preuve que cette Coupe du Monde, elle était au-dessus des lois. Elle était considérée comme la meilleure Coupe du Monde qui n'ait jamais été jouée, où justement les joueurs se sentaient libres, et en particulier les Brésiliens, ce qui, encore une fois, par rapport au régime qu'ils subissaient, est totalement paradoxal.
Alors justement, Fabien, ce régime qu'ils subissaient et qu'évoque Benoît, il y avait une grande fraternité dans cette équipe du Brésil pendant cette Coupe du Monde. Elle va donc remporter cette Coupe du Monde avec Pelé qui est de retour dans son royaume. C'est vraiment très important parce que ça va créer une liesse incroyable au Brésil. On évoquait la soupape, Fabien, c'est exactement ça qui se passe. Tout d'un coup, c'est le souvenir des jours heureux. On est sous dictature, mais le Brésil a gagné, on a quelques moments de répit, on a la joie. Les images de Liès sont sublimes en 70.
Oui. Le moment où la culture de masse du football, la culture du football est devenue une culture de masse. À ce moment-là, on a la même chose pour l'Italie à cette Coupe du Monde, qui bat, pour arriver en finale, qui bat l'Allemagne 4-3 en demi-finale, avec des scènes de liesse indescriptibles
en Italie
et qui surprennent les observateurs. C'est ce qui se passe aussi au Brésil, c'est qu'on a beau connaître la passion des Brésiliens pour le football, il y a qu'à voir les descriptions du Maracana pour la Coupe du Monde 1950, on pensait pas qu'on pouvait arriver à un tel degré de joie encore supérieur en 1970.
Et là, Fabien, Pelé hésitait à faire cette Coupe du Monde. Il est revenu pour des raisons personnelles, sans doute, des défis personnels, mais il rentre comme le héros suprême. C'est-à-dire qu'il a fait une Coupe du Monde extraordinaire. Il a 30 ans, il est donc un peu âgé pour l'époque. Il est sur une fin de carrière, vraiment, mais il va offrir cette troisième Coupe du Monde aux Brésiliens, sa quatrième participation pour lui. Et c'est vrai qu'il revient alors qu'il avait des problèmes de conscience, peut-être par rapport au régime aussi, mais là, tout d'un coup, ça transcende la situation. Pelé rentre comme un roi, justement.
Il rentre comme un roi et qui est une icône planétaire. Et 1970, c'est vraiment le premier événement sportif qui est vu par des centaines de millions
en mondovision.
Et par exemple, les années 60 sont les années du tiers-mondisme, des indépendances africaines par exemple. Vous avez dans la foulée des poèmes au Sénégal, Pelé, les nègres te saluent, tu es le roi du monde et tu es un nègre. Donc en gros, tous les humbles de la planète se reconnaissent dans Pelé.
Benoît Immermann, quand on voit les images de la victoire brésilienne en 70, au moment de la finale, on perçoit la grande émotion chez tous les joueurs et chez Pelé en particulier. On le voit beaucoup pleurer. On perçoit aussi son immense soulagement. De quoi avait-il peur, Benoît ?
Effectivement, il avait sans doute peur, on en a parlé un peu plus tôt, de ce poids qui pesait sur lui par rapport à son rapport au régime. Et pourquoi a-t-il tant pleuré à la fin de cette Coupe du Monde? C'est qu'il savait que c'était fini pour lui, que le football était fini. Il ne rêvait pas encore du cosmos, de son aventure américaine. Il était sûr qu'à ce moment-là, il arrêterait le football. Je crois qu'il a pleuré de joie et de soulagement à la fois.
Et puis Fabien Archambault, on ne sait pas ce que c'est que de vivre sous une dictature. Je dis ça parce que les représailles sont possibles. Il est brésilien, il vit au Brésil, sa famille vit au Brésil, la torture est devenue monnaie courante. Qu'est-ce qu'on sait de cette peur-là d'être soi-même sous la tenaille? On n'en sait rien. Et c'est vrai que dans le documentaire de Netflix, c'est évoqué. C'est-à-dire que c'est pas une situation tout à fait normale pour un homme qui doit prendre une décision.
Oui, c'est la question de l'engagement et des raisons qui poussent à l'engagement quand on vient d'un milieu qui n'est pas politisé. qui n'a pas de tradition d'engagement, que peut un homme seul face à un régime politique. De toute évidence, il n'y avait pas les ressources, quelles qu'elles soient, dans son milieu professionnel, dans son milieu familial, qui l'aurait poussé à formuler explicitement une opposition à la dictature.
Alors Benoît Hamerman vient de le rappeler, c'est vrai qu'en 70, il pense que c'est fini. Pelé pense que sa carrière est terminée, et voilà, on va raccrocher les crampons. Or, de manière assez surprenante, Pelé a terminé sa carrière ailleurs, au nord du continent américain.
C'est dans les salons du club le plus chic et le plus cher de New York, le 21, où la portion de salade vaut déjà plus de 25 francs, et en présence d'une foule de plus de 250 journalistes, photographes et caméramens prêts à se piétiner et à s'écraser les uns les autres, qu'un certain Arantes do Nascimento, plus connu sous son pseudonyme de Pelé, a signé un contrat qui le lie au club de football new-yorkais Cosmos pour une durée de 3 ans. Pelé avait bel et bien répété qu'âgé de 33 ans, il abandonnait à tout jamais la compétition, mais pour la modique somme de 7 millions de dollars, 3 milliards d'anciens francs environ, il s'est laissé fléchir. 1 milliard par an, voilà qui lui permettra de faire vivre sa petite femme, Rosemary, que l'on voit à ses côtés, et même de faire quelques économies pour ses vieux jours. Pour les propriétaires du New York Cosmos, on pense que tous les records seront battus et que grâce à Pelé, le football à l'européenne, le soccer, comme on l'appelle là-bas, deviendra enfin aux États-Unis un sport populaire.
Toute une époque, hein, tout un style, ces sons d'actualité des 70s sur les antennes de Radio France. Fabien Archambault, quel était l'objet, l'ambition de cette équipe étrange du New York Cosmos, donc à New York évidemment, un club de soccer? C'était quoi l'objet et l'ambition de ce projet curieux?
Les industries du spectacle américaines voient le succès du football dans les années 60 et 70. Donc elles voient ce succès mondial, le fait que il y a que un continent qui résiste à cette passion du football, c'est l'Amérique du Nord. Donc forcément, comme ce sont les industries qui dominent le monde du spectacle, l'industrie du spectacle, parce que c'est la Warner qui possède le New York Cosmos.
C'est les frères Warner, exactement, voilà. Hein, qui lancent les Cosmos.
Et donc l'idée, il n'y a pas de raison que le football ne soit pas populaire aux États-Unis. Et donc, en fait, depuis le début du XXe siècle, il y a des tentatives de créer des ligues professionnelles de soccer, comme ils le disent. Le problème, c'est que la place est prise. C'est-à-dire que le système sportif américain est déjà structuré et que c'est difficile face au football américain, face au baseball et au basketball
d'exister.
Trouver un public. Mais on essaye parce que les enjeux financiers sont énormes. Et donc, ils décident de mettre le paquet et donc de se payer le joueur le plus populaire du monde à ce moment-là.
Pelé. Il y aura d'autres joueurs, hein, parce que Beckenbauer joue dans le Cosmos, Roberto Cabañas, de grands joueurs de football vont venir intégrer ce club pendant très court, on va dire, c'est quelques années pour essayer de lancer le soccer qui n'a pas pris, évidemment. Donc Pelé a terminé sa carrière au New York Cosmos, dans la grosse pomme de New York. Pour conclure, Benoît Hamerman, ce qui est très émouvant dans ce documentaire produit par Netflix, c'est de voir tous ces vieux messieurs du football brésilien toujours en vie. Il y a là Rivelino, il y a là Jairzinho, il y a là Zagallo, Pelé évidemment, qu'on voit à de nombreuses reprises. Ils appartiennent tous à l'histoire vraiment maintenant du XXe siècle, à plus d'un titre, et ils sont toujours là aujourd'hui en vie. C'est très émouvant, Benoît, non ?
Oui, il y a une scène merveilleuse dans ce film. Effectivement, ils se retrouvent autour d'une table, ils plaisantent comme des vieux copains, ils ont tous leur âge, qui est effectivement un âge avancé. Et d'ailleurs, vous citiez cette première scène de ce documentaire où on voit arriver Pelé avec un déambulateur. C'est à la fois émouvant et on a forcément de la nostalgie par rapport à ces joueurs qui étaient si beaux et si glorieux dans les années 70. Mais encore une fois, ils représentent une image du football bien particulière, l'image de l'offensive, le fameux 4-2-4 qui s'est développé. C'est quelque chose de beau, de chatoyant. Et je me rappelle effectivement qu'à cette époque, Pasolini avait eu ce bon mot en disant que la poésie brésilienne avait surpassé la prose italienne et effectivement avait battu le catenaccio italien. Et c'est cette image-là qu'on garde de ces fameux apôtres de 70, de ces fameux joueurs que vous citez, comme Carlos Alberto, comme Félix, comme Brito, etc. Et dans ce film, on les voit autour de cette table, comme autour d'une scène, autour du dieu Pelé, qui est là et qui plaisante avec eux. Et évidemment, ça se termine par des chansons, et je trouve ce passage du film formidable.
C'est vrai que c'est un passage magnifique. Un mot pour finir sur la prose italienne, Fabien Archambault, face à la poésie brésilienne.
Étonnamment, en fait, hein, les Italiens considèrent que enfin, à part Pasolini, mais qui était toujours à contre-courant de l'opinion majoritaire, c'est que l'équipe d'Italie avait pratiqué l'offensive, justement, dans cette demi-finale, et qu'elle avait rompu, enfin, elle avait lutté contre elle-même, et que c'est justement pour ça qu'elle avait perdu contre le Brésil en finale. Si on avait joué défensif comme d'habitude, on aurait battu Pelé, etc.
Évidemment. En tout cas, merci à vous deux d'être venus ce soir. C'était passionnant de vous écouter l'un et l'autre. Vous retrouvez la plume de Benoît Emmermann dans sa biographie passionnante d'Albert Londres aux éditions Paulsen. Quant à Fabien Archambault, si vous ne connaissez pas encore ses travaux historiques sur le football, précipitez-vous, c'est passionnant. Et puis regardez ce documentaire de Netflix sur Pelé, il est vraiment très réussi ce film. Merci à vous deux, salut, à bientôt.
De revoir cet endroit, chaque année en l'état, le plongeoir tout là-bas, et le sable de Saint-Ca, les gouttes d'eau et les carreaux. Cette image ne change pas. La même plage et toi de dos, dans le même contre-jour, le même cadre, la même photo, et quelques gens autour, et le son de ce bourdon qui revient toujours. Laissons grand bien pouvoir faire. De retour en septembre, on ira boire quelques verres, mais les jours se ressemblent. Qu'est-ce qu'on va faire d'extraordinaire quand on va redescendre? Après novembre vient l'hiver, qu'on appréhende et qu'on espère. Après la coupe, le regain, le pollen et la poussière. Laissons grand ouvert et laissons venir la cinquième saison. Laissons entrer l'air et laissons venir la cinquième saison.
La cinquième saison, chanson signée Ours. On poursuit en musique avec La Victoire en chantant, le rendez-vous de Pierre-Étienne Minonzio, plume de l'équipe, notre partenaire cette année. Ce soir, le pied au plancher. Pierre-Étienne, bonsoir.
Bonsoir Philippe et bonsoir à tous.
De qui allez-vous nous causer ce soir ?
D'un artiste pour qui parler semblait ridicule, qui s'élançait puis reculait devant une phrase inutile qui briserait l'instant fragile d'une rencontre.
Eh ben, les mots bleus signés Christophe. Donc c'est lui que vous souhaitez évoquer aujourd'hui.
Oui, car je ne me suis jamais vraiment remis de ma première écoute des mots bleus dans mon adolescence et de la découverte de ces paroles poignantes signées Jean-Michel Jarre. Et je ne me suis pas non plus remis de l'annonce de la mort de Christophe. Vendredi prochain, ça fera d'ailleurs un an que ce beau bizarre nous a quittés, à l'âge de 74 ans. Je profite de ce triste anniversaire pour évoquer son souvenir à travers sa passion dévorante pour le sport automobile.
Alors pourquoi qualifiez-vous cette passion de dévorante ?
Parce que, après le succès de son premier tube, Aline, en 1965, Christophe a consacré 2 ans de sa vie à cette discipline, sans enregistrer de disque. Il participe alors à des courses, connaît quelques sorties de route, tout en accumulant les bolides dans son garage personnel. À cette époque, il envisage de reprendre sa carrière musicale uniquement dans le but d'agrandir cette collection, comme il l'expliquait à l'ORTF en 1967.
Pour commencer, j'ai eu une petite Austin, vous savez, une petite, toute petite Austin. C'est ma 16e voiture. Quand je conduis, je pense à rien. Je pense qu'à mon auto, je pense à mon frein, au débrayage, aux vitesses, j'écoute le bruit. C'est une musique, enfin, ça m'apporte quelque chose. J'ai besoin de mettre le pied dans un accélérateur, parce que j'aime ça, j'aime voir mon aiguille à 240, 250.
Alors Christophe a-t-il relayé, Pierre-Étienne, dans ses chansons, son amour pour les voitures de sport ?
En fait, il a plutôt évoqué dans son répertoire l'ivresse que lui procurait le fait de rouler à une allure folle. Ce frisson est souvent associé à une notion d'interdit ou de danger. C'est ainsi que le titre Macadam de 1976 met en scène un Christophe qui file pied au plancher, conscient qu'il peut à tout moment provoquer un accident.
Entre tous ces plats, je fais des poches, j'en deviendrai. Oui, mais qu'est-ce que je ricane en dépassant tous ceux qui se traînent.
Christophe, amateur de sensations fortes, qu'il aimait mettre en musique donc.
Oui, vous ne croyez pas si bien dire. Dans sa chanson « On achève bien les autos », sortie en 2001, il semble s'inspirer du film « Crash » de David Cronenberg, sorti 5 ans plus tôt, pour comparer la violence d'une collision automobile avec celle d'un acte amoureux passionnel.
Se touche à grande vitesse, accélère, je viens dans cette mise au point. La nuit court vers sa fin et la route jolie et la pluie aussi, mais elle ne menace pas, elle est très loin.
Et alors, est-ce que la compétition automobile, en tant que telle, a droit de citer dans l'œuvre de Christophe ?
Oui, à travers une figure mythique, celle d'Enzo Ferrari, un ancien pilote qui a fondé en 1929 la Scuderia Ferrari, la plus connue de toutes les écuries de course. En 1996, Christophe lui a rendu un hommage évanescent avec un titre qui dure 9 minutes, au cours desquelles résonne ponctuellement la voix d'Enzo Ferrari. Alors j'encourage vivement les auditeurs à écouter cette splendeur dans sa globalité, car on ne peut malheureusement en diffuser ici qu'un court extrait.
On a l'impression que quand Christophe parle dans ses chansons de bolide ou d'Enzo Ferrari, il use de métaphores filées. Il ne chante jamais explicitement sa passion pour le sport automobile.
Oui, et peut-être parce que Christophe considère qu'une histoire d'amour sans parole n'a pas besoin de protocole et que tous les longs discours futiles en terniraient quelque peu le style.
Ça vire à l'obsession chez vous, les mots bleus. À dimanche prochain et vendredi, nous aurons une pensée évidemment pour le beau bizarre.
À dimanche prochain.
Salut Pierre-Étienne. Et voilà, cette 30e émission de notre saison 6 a été mise en onde ce soir par H2M, Henri-Marc Mutel. Merci Marco, assisté ce soir à la technique de Julien Dumont. Merci à lui, merci à toute l'équipe de l'Œil du Tigre, Arnaud Jamin qui prépare cette émission avec moi, Thierry Dupin pour la programmation des Scuds et merci à Loïc Saulnier pour l'animation de nos réseaux sociaux. Vous nous retrouvez sur Twitter avec le compte L'Œil du Tigre et sur franceinter.fr bien sûr pour catcher le podcast. On se retrouve la semaine prochaine avec l'histoire de la première tenniswoman noire à avoir gagné un tournoi du Grand Chelem. C'était en 1956, oui 56 à Roland-Garros. Un destin hors norme, connaissez-vous Althea Gibson. Rendez-vous dimanche à 18h10. D'ici là, passez une excellente semaine sur Inter. Salut et fraternité.